Vous êtes à l'écoute de Conversations RH. Dans cette collection de podcasts, vous allez découvrir des éclairages d'experts passionnants qui vous apportent, chers auditeurs, des réponses concrètes aux problématiques liées aux ressources humaines et à la vie de l'entreprise. Alors n'hésitez pas à découvrir les épisodes des différentes saisons de Conversations RH dans lesquelles nous traitons les ressources humaines sous des angles sociétaux, psycho et techno. Comment faire face au brownout de vos équipes? Les recrutements dans le métaverse sont-ils possibles? Quels sont les bons tips pour les candidats et les recruteurs? Ou encore comment améliorer l'attractivité marque employeur? Toutes ces réponses sont dans Conversations RH. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversations RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Et Conversations RH, vous le savez maintenant, c'est un podcast qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison qui va être tout autant passionnante que la première. Nous évoquerons dans cette saison notamment le sujet du brown out, de la folie du marché du recrutement tech, du recrutement des seniors, de l'impact Web 3.0 et du métaverse dans les process de recrutement. On va parler de l'éthique, de la gestion de crise. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à Conversations RH pour ne rien rater de ces échanges passionnants. Et alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons réfléchir à une question centrale pour l'entreprise. Nous allons parler de son attractivité et des différents leviers pour mieux fidéliser ses salariés et attirer de nouvelles recrues. Nous verrons que l'attractivité est associée à la culture managériale de l'entreprise, mais aussi à sa marque employeur, à la qualité de vie au travail, à la culture managériale bien entendu et plus globalement à un projet global, une vision claire. Alors quelle stratégie mettre en place en interne comme à l'externe pour améliorer l'attractivité de son entreprise? Réponse dans cet épisode au cours duquel j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Vigneron. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Guillaume, bonjour, tu es président directeur général de la Super Agence qui fait de la communication digitale orientée sur les sujets de recrutement avec un concept un peu particulier d'inbound recruiting qui est finalement le parallèle de l'inbound marketing mais appliqué au recrutement si j'ai bien compris.
C'est exactement ça. On utilise une technique assez nouvelle pour l'attractivité des leads commerciaux et on l'adapte, il faut une forte adaptation, pour le monde du recrutement, pour faire venir des leads de candidature.
Bon, on va en parler hein, justement, oui, comment on attire des potentialités de candidature. Merci d'être avec nous. À tes côtés sur ce plateau, Nicolas Guillaume. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, bonjour. Tu es directeur des opérations chez LHH Recruitment Solutions sur l'Île-de-France. Si on peut résumer ton périmètre d'activité, c'est sur l'Île-de-France, sur les opérations courantes.
Tout à fait, sur différents métiers, que ce soit les métiers du sales marketing ou les métiers plutôt techniques, industrie, supply chain.
Ben écoutez, je pense qu'on est prêt. Conversation RH, les clés pour une meilleure attractivité. C'est parti. Merci à tous les deux d'être avec nous. Déjà, première question, pour quelle raison cette question de l'attractivité vous semble essentielle à tous les deux, Nicolas?
Elle est essentielle actuellement parce qu'on est sur un marché de pénurie, qu'on soit sur des fonctions non cadres, où on voit qu'il y a, même s'il y a un peu de chômage encore en France, il y a une vraie différence entre les compétences qui sont recherchées et les compétences qui sont offertes sur le marché de l'emploi. Donc il y a une vraie dissonance sur ce marché-là et sur le marché des cadres. Là, on est sur une situation de plein emploi, puisqu'on a moins de 4% de chômage des cadres aujourd'hui en France. Et donc, on a de la pénurie. C'est-à-dire que la compétence n'existe pas suffisamment aujourd'hui sur le marché. Donc chaque entreprise doit se montrer sous son meilleur jour pour attirer les meilleures compétences.
Ouais, donc c'est pour ça que c'est essentiel. On ne joue plus que sur des leviers financiers, on doit jouer aussi sur l'attractivité au sens large.
Exactement, la rémunération est un critère du choix, évidemment, et il est souvent central à la fin de la négo. Pour autant, c'est pas le critère principal. Ouais. Aujourd'hui, on verra peut-être tout à l'heure, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres sujets qui vont faire la décision pour un candidat.
Bon, on va parler tout à l'heure, bon teasing. Guillaume Vigneron, pourquoi c'est essentiel d'en parler aujourd'hui, ici et maintenant?
Alors, pour moi, c'est une question qui est urgente depuis quasiment 30 ans.
Ah oui, donc c'est pas que ici et maintenant.
Non, c'est pas que ici et maintenant. Ça n'a jamais été aussi prégnant, ça n'a jamais été aussi important. Probablement, vu la situation, le contexte actuel, on va probablement développer ça. En réalité, les questions d'attractivité et l'enjeu que ça représente pour les entreprises est vraiment apparu, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000, avec d'ailleurs le concept même de marque employeur, hein, qui date de cette époque-là, à peu près, vers 96. Et c'était au moment de la première révolution digitale. Il y a eu depuis, en fait, un changement de paradigme qui s'est instauré avec, notamment dans les populations de techniciens informatiques, la nécessité de se différencier de ses concurrents sur le marché du recrutement. Et comme ça, depuis 30 ans, on met en place un certain nombre de stratégies, de tactiques, de méthodologies pour réussir à attirer des candidats. Mais là, l'instant actuel, il est vraiment décisif. Parce qu'on est à un moment exceptionnel et pas seulement pour le monde du recrutement. Ouais. Pour le monde de l'économie, d'une manière générale, je pense qu'on va avoir l'occasion de développer ça.
On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Quels sont les leviers pour l'un et l'autre qui permettent de rendre son entreprise plus attractive en interne ? Nicolas.
Alors, en interne, c'est plutôt pour garder les candidats, mais aussi en externe. Pour
il y a les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un sujet de mobilité interne et de rétention, l'attractivité qui peut jouer un rôle là-dessus. Et puis après, on parlera de l'externe avec les candidats.
C'est certain. Le meilleur moyen de ne pas avoir à recruter à l'externe, c'est de ne pas faire partir ses collaborateurs. Ça, c'est certain. Et en termes d'attractivité aujourd'hui, de rétention, je pense qu'un des sujets principaux est que l'entreprise sache donner du sens à son activité, qu'elle puisse développer une vision, peut-être même parfois une mission. On a vu des entreprises devenir des entreprises à mission, ouais. Donc statutairement, dans leur statut juridique. Plus on arrive à donner du sens aux candidats, plus ils souhaitent rester, s'investir dans cette entreprise-là. Je pense que c'est un sujet clé.
Est-ce que la transparence dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les salariés en interne?
Oui, d'avoir une bonne visibilité de ce que sont les valeurs, mais les valeurs réelles, parce que on observe que le travail sur les valeurs est fait depuis plusieurs années dans quasiment toutes les entreprises. Pour autant, c'est parfois un peu galvaudé, c'est-à-dire que certaines entreprises peuvent vouloir développer des valeurs, mais avoir du mal à les mettre en adéquation avec leurs pratiques managériales au quotidien. Je pense que le sens, les valeurs sont quelque chose d'essentiel et passent notamment sur le travail sur la culture managériale de l'entreprise.
Ouais, la culture de l'entreprise, une culture forte, ça fait partie des leviers, je crois, Guillaume, qui sont importants à tes yeux.
Absolument. Les leviers internes sont les premiers leviers de la marque employeur. Il y a une expression que j'aime bien d'un article qui vient de Thomas Chardin de Parlons RH qui est la marque employeur, c'est le bifidus actif de l'entreprise. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et ça, je suis absolument convaincu de cette notion-là. Didier Pitlet, qui est aussi le monsieur marque employeur en France, qui a même déposé le concept, explique que c'est vraiment la culture d'entreprise qui est le socle sur lequel on va générer de l'attractivité à l'extérieur à travers des actions de communication, mais aussi à travers le bouche à oreille. Il y a énormément de leviers justement qu'on peut actionner. Mais effectivement, tout part de non seulement de ce qu'il y a au niveau managérial, au niveau des formations proposées, au niveau des outils à disposition, enfin tout ce qui permet à une personne de travailler dans des conditions saines, agréables, et ça après, le faire savoir. Donc le faire savoir, c'est le travail que nous, on met en place, hein, c'est-à-dire on est capable de dévoiler un peu les atouts, la richesse cachée d'une entreprise, mais effectivement, tout est à la base la réalité et surtout, l'idée, c'est de ne pas trahir.
Il faut révéler ce qui existe déjà, ce qui est peut-être un peu enfoui, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Et surtout ne pas mentir.
Ouais.
À mon avis,
encore cette transparence qui est importante.
La transparence, c'est que si vous commencez à vous survendre par rapport à une réalité qui n'est pas perçue par vos collaborateurs, il y aura une dissonance cognitive et ça va vous faire très très mal sur le long terme. Donc ça, c'est aussi ça la réalité. C'est qu'il faut être capable de dire voilà qui on est, voilà comment on travaille. Et peut-être aussi ne pas hésiter parfois à parler de ses propres limites.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui serait, à mon avis, on n'est pas encore là en termes de maturité.
Mais ça serait l'aboutissement d'un travail de transparence totale,
oui,
en fait.
Oui, parce que maintenant, les candidats sont aussi des gens qui sont très au fait de ce que c'est la communication. Ils ne croient plus en une communication lisse et sans aspérité. On parle beaucoup de l'authenticité, hein, du message. Et pour cela, ils ont besoin d'avoir aussi des échanges réels avec des collaborateurs, avec des ambassadeurs de marque employeur et avec une vraie démarche.
Nicolas Guillaume.
Oui, tu parlais de transparence, je suis complètement en face, mais transparence, c'est l'honnêteté, c'est pas de montrer que les aspects positifs, c'est de montrer la réalité de ce qu'on est au quotidien et personne n'est parfait et aucune entreprise ne l'est aussi. Je réinsiste sur cette partie de culture managériale, hein, parce que je pense que c'est clé. Finalement, quels que soient les moyens autour de la vie au travail qui pourraient être développés, la réalité, c'est qu'on reste dans une entreprise quand on s'y sent bien et on s'y sent bien quand on est bien avec les gens et qu'on est en adéquation de valeurs. Donc cette logique de culture d'entreprise, culture managériale, valeur de l'entreprise et d'adéquation entre le candidat ou le salarié et cette entreprise est au cœur pour moi de la rétention.
J'aimerais qu'on revienne sur un terme qui a été employé plusieurs fois depuis le début de ce podcast, c'est le terme de marque employeur. J'aimerais que vous puissiez, si possible, le définir pour que toutes les personnes qui l'entendent ici et là puissent avoir une définition concrète sur voilà ce qu'est une marque employeur.
Alors d'abord, avant de parler de marque employeur, il faut parler de ce qu'est une marque. On va pas faire une monographie sur le sujet, mais une marque, c'est un signe distinctif. C'est ce qui fait qu'une entreprise, une personne morale, se différencie d'autres entités. Ça peut se faire à travers son identité commerciale, son identité institutionnelle, on parle de la marque corporate, et depuis une trentaine d'années à peu près, là, on prend conscience de la marque, identité en tant qu'organisation de travail, avec les collaborateurs et des candidats, encore une fois, hein, c'est interne et externe. Et à partir de là, donc la culture entreprise est capable de rayonner et d'attirer les gens, et aussi de les faire rester. C'est l'enjeu principal actuellement. C'est évidemment l'attractivité, c'est essentiel et c'est le cœur de mon activité. Mais la rétention est également très importante. La marque employeur sert également à ça, à donner un sentiment d'appartenance, voire même de fierté. Là, quand on arrive à ça, c'est un petit peu le Graal.
Pour être mais c'est très proche de la culture d'entreprise finalement.
C'est très proche.
C'est-à-dire qu'on crée une culture d'entreprise.
Oui.
Lorsqu'elle est créée et qu'elle est forte, la marque employeur n'est pas très loin derrière.
La marque employeur, c'est la communication qu'on fait sur la valeur d'entreprise.
OK.
Sur les valeurs de l'entreprise et sur la culture d'entreprise. Oui. Mais c'est extrêmement lié. D'ailleurs, la culture d'entreprise précède la création de la marque employeur. La marque employeur, c'est quelque chose qui arrivait avant. Ouais. Parce que avant l'arrivée de la digitalisation, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. C'était quoi l'argument de vente? C'était on recrute. Vous postiez quelque chose, tu postais une offre d'emploi, on recrute, ah bah voilà, c'est ça le VP, la valeur ajoutée, c'est on recrute, et bah du coup on va postuler. Maintenant, on a besoin d'avoir quelque chose de plus enrichi, de plus élaboré, et le message qu'on véhicule dans sa dimension digitale, mais pas seulement, c'est ça la marque employeur.
Alors comment on peut l'améliorer, cette marque employeur, ce message, Nicolas?
On peut sans doute l'améliorer en travaillant sur les différents vecteurs d'attractivité qu'une entreprise peut avoir. Donc, on a parlé de sa culture d'entreprise, on a parlé de l'honnêteté, de la transparence, ça c'est certain, mais aussi peut-être sur les avantages que peut proposer une entreprise. Peut-être par les parcours qu'elle peut proposer, les évolutions qu'elle peut proposer, la diversité de ses activités.
Est-ce que c'est la vision qu'on va proposer qui permet de définir et d'améliorer une marque employeur?
Alors, la vision, oui, elle est forcément au cœur des enjeux parce que beaucoup des candidats aujourd'hui, Guillaume, tu le confirmeras peut-être, mais ont pour objectif d'intégrer une entreprise qui a du sens, où leur activité va avoir du sens, et donc d'avoir une mission ou une vision d'entreprise va être essentielle.
On voit beaucoup dans les communications externes, internes, des marques employeurs orientées autour de sujets comme l'écologie, comme la bienveillance, tout ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas trop de choses qui peuvent être considérées comme un peu bullshit? Pardonnez-moi l'expression, mais...
Alors, très compliqué, oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelques années, la marque employeur, c'était, tu le disais, l'entreprise qui recrute. Après, c'est devenu l'entreprise leader de son marché, ou la grosse entreprise, ou celle qui était attirante. Donc, tu pouvais avoir certaines activités, je sais pas, dans la chimie, ou même dans le pétrole, ou dans le tabac, qui étaient des grosses entreprises, donc des gros employeurs, donc attirants. Aujourd'hui, ça marche plus du tout comme ça.
Ça fait plus la différence.
Ça fait plus du tout la différence. Donc, c'est pas bullshit. C'est pas bullshit parce que ces entreprises-là, aujourd'hui, n'attirent plus, ne font pas venir des candidats, là où demain, une entreprise dans les énergies renouvelables, par exemple, va être extrêmement attirante et générer plus de candidatures. En revanche, tu peux aussi avoir des entreprises qui vont faire du greenwashing, repeindre un peu en vert une activité qui n'est pas tant que ça, ou alors se donner une vision sociale alors que au cœur de leur métier ou dans leur culture d'entreprise, ils le portent pas. Et là, ça se voit,
ça se voit clairement, hein, Guillaume. J'ai l'impression quand c'est superficiel, pour pas réutiliser le terme de bullshit.
Absolument. Comme on dit, il y a pas de paroles d'amour, il y a que des preuves d'amour. C'est vraiment les preuves qui font l'authenticité et la véracité et la perception. C'est-à-dire qu'une marque, il y a d'à côté l'identité de marque, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez véhiculer auprès, donc quand c'est la marque employeur, auprès de vos candidats et auprès de vos collaborateurs. Et après, il y a l'image de marque. Comment c'est réellement perçu? Et c'est là où parfois on se rend compte qu'il y a vraiment un hiatus. On le voit, comme tu disais, sur, on va employer des termes comme ça, un petit peu vanilla effect sur la bienveillance. En fait, des mots qu'on retrouve absolument partout. Et à la fin, ça n'a plus aucune valeur.
Qu'on a une maturité en tant que consommateur de ces outils de communication. Oui. Donc, on a une maturité et lorsque ça paraît trop superficiel, on le voit bien, quoi.
Ça, c'est un point que tu évoques qui est absolument essentiel. C'est la maturité. C'est effectivement la montée en compétence de la population générale et de la population des collaborateurs. En plus, quand c'est sur des métiers techniques, tout le monde s'informe un peu sur le sujet. Oui, effectivement, on peut plus vraiment la faire comme on la faisait dans les années 90.
Ouais, on sait bien que rien ne lave plus blanc que blanc.
Voilà, exactement. Les sketchs de Coluche, maintenant, tout le monde les a vus et tout le monde comprend les limites de la communication pour la communication. Par contre, si c'est de la communication qui sert à amener une lumière sur des preuves d'une réalité, d'un vrai engagement. C'est pour ça que, par exemple, on voit beaucoup d'entreprises américaines qui sont pas forcément le plus exemplaires sur tous les sujets, mais qui mettent vraiment des manifestes. Et les manifestes qu'on lit pour les entreprises, je pense à HubSpot, par exemple, qui a vraiment fait un travail énorme par rapport à ça, on sent que c'est réel et on sent que ça a été travaillé par le top management. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pendant très longtemps, on s'est posé la question à qui doit revenir la responsabilité de travailler sur ces sujets-là. D'ailleurs, on ne savait pas trop. Est-ce qu'on la confie au monde du RH, au monde de la communication, du marketing, de la com corporate? Et là, on se rend compte de plus en plus, à mesure que les enjeux grandissent également, qu'on a besoin d'avoir un engagement fort de la part du top management parce que c'est de là que vient l'impulsion. Et si ça vient avec, en plus des preuves et avec des projets qui sont montrés aux collaborateurs et aux candidats, là, ça marche.
On n'a pas parlé de la QVT qui est, j'imagine, Nicolas, un point important qui constitue aussi la marque employeur.
Oui. Alors, au cœur des demandes des candidats, ça c'est certain, la qualité de vie au travail. Mais cette qualité de vie au travail ne peut pas être résumée à une salle de sieste ou une salle de douche, comme on peut le voir caricaturé. Ou un baby-foot, effectivement. On a un baby-foot en bas.
Oui, j'ai vu. C'est pour ça que je fais un petit sourire.
Mais non, ça peut pas être limité à ça, effectivement. Parce qu'en fait, la qualité de vie au travail, c'est bien vivre au travail. Et pour moi, bien vivre au travail, c'est bien vivre avec les autres. Donc, c'est là encore une fois la culture managériale qui doit être au cœur. On citait un exemple, tout doit venir du top de l'entreprise. Quand un candidat va attendre une valeur ou un mode de fonctionnement ou une culture de l'autonomie, du mode de fonctionnement de prise d'initiative, ça peut pas se décréter, ça peut pas s'écrire sans se vivre au quotidien.
C'est ça.
Et si ça vient pas effectivement du top management de l'entreprise, si on est un top management très directif, il y aura jamais cette notion d'autonomie.
Ouais.
Donc, ce sera dissonant, il y aura hiatus. Donc, oui, effectivement, il faut que ce soit porté au plus haut.
Encore une fois,
culture managériale.
Guillaume. Absolument. Et moi, je prends toujours un petit peu de distance avec la notion de QVT qui est intéressante, effectivement, dans sa dimension prise en considération des véritables attentes des collaborateurs. Mais attention quand même à l'injonction, hein. Parce que si l'entreprise donne pour injonction d'être heureux au travail, c'est en gros, soit heureux au travail, on fait tout pour que tu sois heureux au travail. Pourquoi t'es pas heureux au travail? Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, tout le monde n'est pas censé être heureux au travail, déjà. Ce qui est important, c'est que les gens aient confiance. Je parlais de l'armée, parce que l'armée,
c'est un gros recruteur.
C'est l'origine du recrutement. Le mot recrutement vient de l'armée, d'ailleurs. Et vous savez, quand on envoie des soldats au combat, ils risquent quand même leur vie. Donc, en termes de qualité de vie, vous voyez, c'est un peu limite. Mmh. Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils ont confiance dans leur commandement, ils ont confiance dans l'équipement, ils savent qu'ils sont back-upés à toutes les étapes de leur mission. Et donc, ils le font. Vous voyez, je prends un exemple un peu extrême pour qu'on comprenne bien.
Mais c'est ça les véritables
enjeux de la QVT, ce qu'on appelle, c'est la capacité à sentir qu'on est écouté par son management, qu'on est considéré pour ses résultats, qu'on est considéré par rapport aux formations qu'on met en place, qu'on a les bons outils pour travailler et que voilà, tout les capacités qu'on a en interne de bien travailler sont là. À partir de là, tout ce qui est baby-foot, c'est du nice to have, mais c'est pas du tout ça la QVT.
Et là, on parle de QVT, il y a une équation un peu compliquée là à résoudre entre le besoin d'être en télétravail de plus en plus, affirmé par les collaborateurs, les collaboratrices, et installer des baby-foot pour en parler, mais c'est pas que ça, on est d'accord, la qualité de vie au travail, des beaux bureaux, des belles installations. Comment on peut résoudre cette équation complexe?
Alors, c'est une vraie problématique. Je pense que là, on a un équilibre à trouver, sans doute dans le dialogue social aussi, hein, dans l'entreprise, et une responsabilité commune entre l'employeur et les salariés pour trouver ce bon équilibre. C'est-à-dire qu'on pourra pas avoir des bureaux pour chacun, de refuser le flex office,
une salle de sport,
une salle de sport, et que chacun ait son bureau où il va jamais être, ou en tout cas où il va être deux fois par semaine, parce que trois jours par semaine, il sera vide ce bureau. Et c'est pas même écologiquement, si on cherche le sens RSE de la chose, ça va pas. On paye de la clim pour des bureaux vides toute la journée. C'est pas très responsable non plus. Donc, il y a un équilibre à trouver. On n'y est pas encore.
Ouais.
Mais je pense qu'à travers un dialogue social un peu avancé, dans certaines entreprises, on devrait arriver à trouver cet équilibre-là.
Et donc, ça veut dire peut-être aussi changer la manière de communiquer en interne, en externe. On ne communique plus avec des espaces physiques, mais on communique différemment.
Exactement. Rejoindre cette capacité à faire une synthèse entre le monde d'avant, c'est-à-dire le monde d'avant Covid, où la semaine de travail était agencée du lundi au vendredi avec des déplacements quotidiens, avec le fait de repenser l'organisation et aussi, encore une fois, le fait de le faire savoir. De dire, voilà, maintenant, on a une clarification de notre organisation, une clarification de nos principes managériaux, parce que ça oblige aussi, on en parle aussi souvent, l'arrivée comme ça, brutale, en tout cas très, très immédiate du télétravail dans nos vies, a obligé énormément de gens à repenser leur management. Eh ben, qu'est-ce qui en est sorti? Qu'est-ce qui en est sorti du dialogue social, comme tu disais, Nicolas? Et comment on est capable maintenant de le formaliser auprès des candidats en disant voilà comment chez nous ça se passe. Mmh. Et si c'est clair pour le candidat, si vraiment ça a été quelque chose qui a été validé par les partenaires sociaux et par tout le monde, ça c'est un vrai argument pour moi d'EVP, c'est de Employee Value Proposition, donc c'est l'argument de vente en fait de la marque employeur. Ça c'est vraiment un argument de vente qui est démontrable, sur lequel on peut communiquer, sur lequel on peut écrire, faire des vidéos, oui, c'est absolument essentiel.
Alors, puisque tu parles de l'armée, j'ai envie de te parler de Top Gun 2 et de Top Gun, puisque, effectivement, j'ai été voir le film et ça m'a donné presque envie de m'enrôler dans la Navy. Encore faut-il que j'ai la green card, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais est-ce que c'est de l'inbound recruiting, ce qu'ils font avec ce type de film? Je sais que l'armée, du coup, est partenaire du deuxième opus. Est-ce que c'est ça, de l'inbound marketing?
Oui, c'est effectivement une forme d'inbound recruiting.
Comment on pourrait définir, du coup?
C'est ça. C'est de la production de contenu qualitative qui permet, alors, Attention, parce que là, en l'occurrence, il y a quand même pas mal de propagande. Il faut pas aller trop
loin. J'ai été conquis, moi.
Mais là, l'anecdote, ce qui est marrant par rapport à Top Gun, c'est que le premier Top Gun était pas du tout soutenu par l'armée. Ils pensaient que c'était plus un danger qu'une opportunité. Ils se sont rendu compte que la Navy a enregistré énormément de candidatures spontanées après ce film. Et là, ils ont commencé à entrer dans un nouveau schéma, justement, de, alors, non seulement il y a eu les films, à ça, on voit toute la filmographie qu'il y a eu par la suite, sponsorisée par l'armée américaine. Ils ont même fait des jeux vidéo, Army of America, qui a très bien fonctionné, un FPS, qui fonctionnait pour attirer aussi des...
FPS, va falloir nous dire, parce que
on voit la première personne.
Voilà, on voit le pistolet, qu'on voit juste la main et le pistolet.
Ils ont, ça, c'est depuis les années 90, c'est-à-dire que même avant, on va dire, l'arrivée d'Internet, ils ont commencé à voir l'intérêt qu'il y avait de produire du contenu qualitatif pour générer, voilà, un allant, vers la marque employeur de l'armée. Donc, c'est vrai que l'armée a toujours été en pointe. Et après, il y a aussi, il y a eu toutes les SS2I, ça c'est important, dans les années 2000, qui ont compris, parce qu'eux, ils avaient un enjeu extrêmement vital. Alors, le chiffre d'affaires d'une, donc ce qu'on appelait une SS2I, une ESN maintenant, dépend du recrutement.
Ouais.
Donc, c'est eux qui ont commencé vraiment à utiliser aussi du contenu, mettre en place de l'inbound. Google aussi, ils ont fait un film aussi, The Internship, qui décrivait comment c'était chez eux. Alors là, c'est quand même extrême parce qu'une entreprise peut pas, lambda, peut pas se permettre d'avoir un film.
C'est-à-dire qu'un long métrage avec Owen Wilson, on peut pas tous se le payer forcément, effectivement.
Mais en tout cas, voilà, c'est ça, effectivement, c'est attirer les gens avec autre chose que simplement dire on a un super salaire, on a un baby foot.
Donc, si je comprends bien, il y a la culture entreprise qui doit être forte, qui, du coup, se déploie via une communication avec la marque employeur, la vision qu'on va donner. Et tout ça permet d'adresser des axes de communication vers les candidats. Et c'est ça, l'inbound recruiting.
Exactement.
Ouais.
Qu'il soit perçu comme vraiment authentique. Encore une fois, c'est pas un mot vain, c'est vraiment quelque chose où les gens arrivent à percevoir. Est-ce que ça, vous le dites parce que vous savez que ça me fera plaisir? Ou est-ce que vous me le dites parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe.
Ouais.
Et alors nous, par exemple, on travaille sur des nouvelles approches avec notre client, avec AXA, par exemple, sur on met en relation avec des influenceurs pour la marque employeur. Ça, c'est un truc qui n'était pas fait avant, parce que les influenceurs aussi portent cette image d'authenticité. Et on essaie de trouver comme ça des personnes qui savent porter les valeurs de l'entreprise à travers...
Des ambassadeurs.
Des ambassadeurs, mais culturels. Mmh. Pas uniquement pour dire, regardez, on est expert dans notre métier. Oui. Ça, c'est très important, il faut le faire. Mais également, même, c'est quoi, là en gros, est-ce que les jeux vidéo, ça vous fait kiffer? Est-ce que les séries, la musique, etc.
Tout ça peut...
C'est ça, mais quand on parle de culture, on parle aussi de ça.
Au
et
sens
quand
large.
On est dans une entreprise, quand on est à la machine à café, on parle de ce genre de choses.
Ouais.
Si on retrouve des gens qui ont un peu ce genre de, ouais, d'inclination, bah, ça peut vraiment marcher. Et on essaie de travailler sur ces personnes-là, en fait.
Nicolas, chez LHH Recruitment Solutions, vous êtes des spécialistes du recrutement. Est-ce que vous voyez des grandes différences entre des entreprises qui pratiquent de l'inbound recruiting et d'autres dans le choix final?
Disons que tu cibles mieux les candidats. Donc, ça permet d'avoir des candidatures peut-être plus intéressées ou plus motivées. Ils viennent plus à toi grâce au contenu, grâce à la qualité du contenu, plutôt que nous aller vers eux. Donc, c'est toujours plus facile quand la personne vient parce qu'elle est plus motivée. Ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'il y a un peu un effet ciseau là aujourd'hui sur le marché du recrutement. Beaucoup d'annonces, plus d'annonces parce que plus de postes. Le marché se porte bien, c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Donc, plus d'annonces, mais moins de candidats qui bougent. Peut-être post-Covid, il y a eu un peu plus de mouvement. Là, les gens sont peut-être moins mobiles ou moins enclins à changer de job. Donc, plus d'offres et moins de candidats, ça fait qu'on a de moins en moins de candidats par offre. Donc, il y a peut-être presque trop d'offres en fait sur le marché et il faudrait de temps en temps en mettre un peu moins.
Ah oui.
Mais qui commence? C'est pas moi qui vais commencer,
non,
parce que sinon je vais baisser ma visibilité. Mais du coup, l'inbound recruitment, c'est sans doute un moyen d'adresser différemment les candidats et donc d'en récupérer un peu plus.
Exactement, en élargissant en fait le pool de talents. Quand on diffuse une offre d'emploi, on s'adresse à des personnes qui vont faire une requête par rapport à des compétences spécifiques. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'attirer un peu plus des personnalités qui correspondent au profil et donc avec ce contenu-là, faire ce qu'on appelle en fait un tunnel d'engagement, hein, comme exactement comme au marketing. Quand on essaie d'avoir des nouveaux clients, eh ben on essaie de diffuser largement son contenu pour de loin en loin les faire venir sur le produit qu'on vend. Eh ben c'est un peu pareil, l'offre d'emploi, c'est un parallèle que je fais, un peu ce qu'on a à vendre, et on arrive à avoir une plus large zone de diffusion. Et ça veut dire qu'il faut faire du nurturing, il faut entretenir la relation avec la personne via des newsletters, via des systèmes automatisés, ça marche. Mais c'est ça l'idée, hein. C'est qu'on élargit, comme tu disais, effectivement, il y a une réduction du nombre de candidats qui sont prêts à faire de la mobilité. Eh ben, élargissons, essayons de voir si on peut aller sur du candidat vraiment passif, qui a pas forcément formalisé son projet de mobilité et lui proposer quelque chose. Mais sur le long terme, l'inbound recruiting, ce n'est pas une démarche qui fonctionne du jour au lendemain. Ça demande
un peu de temps.
Ah, ça demande un peu de temps.
Et si on se projette dans le temps, lorsqu'une tendance arrive, on se projette un petit peu sur le long terme. Qu'est-ce que ça va devenir un marché de l'emploi où toutes les grandes entreprises feraient de l'inbound recruiting? Est-ce que finalement, à la fin, il n'y a pas un trop-plein et avec une nouvelle tendance qui émergera dans 30-40 ans.
Disons que la démarche d'inbound recruiting, c'est surtout basé sur le référencement naturel. Donc, les gens font leur propre requête et ce qui va, toi, par exemple, t'intéresser dans une entreprise, va pas être forcément la même chose qui va m'intéresser moi ou Nicolas. Donc, non, en fait, il n'y a pas forcément de risque.
Un nouveau moyen de créer du contenu.
Ça s'appelle le content crush. Hein, c'est vraiment identifié en disant est-ce qu'il n'y a pas trop de contenu. Bah, après, si on est capable d'être pertinent et qu'on vise bien sa cible, en fait, le but, c'est d'intéresser les gens qu'on souhaite voir venir. Et aussi, peut-être, de décourager les gens qu'on souhaite pas voir venir. Ça peut être ça aussi une idée. Dire, par exemple, je reprends encore une fois l'exemple de l'armée, mais on m'a raconté, j'étais à Vincennes, il m'avait dit, il faut faire, même quand on est développeur, il faut faire un mois de classe. Donc, aller creuser son trou, etc. Ça, si on le sait pas à l'avance, ça sert à rien de faire tout un process de recrutement si on n'est pas prévenu qu'il faut faire un mois de classe dans l'armée de terre.
Ouais.
Ce genre de choses. Donc, c'est ça aussi l'idée, c'est attirer et aussi peut-être informer les gens sur c'est quoi aussi la réalité et ça peut ne pas vous plaire. Et ça, c'est aussi très compliqué en communication. C'est de dire à la fois, venez, c'est super chez nous, mais attention, il y a des circonstances pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas apprécié. Voilà.
Donc,
ça,
c'est de la transparence encore.
La transparence, honnêteté, oui.
Nicolas, le mot de la fin, est-ce qu'on pourrait donner des conseils aux recruteurs sur ces stratégies marque employeur, sur ces stratégies de culture d'entreprise, d'inbound recruiting?
En fait, tu as tout cité. Le conseil à donner, c'est de tout traiter. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut traiter...
Mais dans l'ordre, peut-être.
Hein. Commencer par avoir une culture d'entreprise qui soit la plus transparente possible et la plus en ligne avec les valeurs du coup de la direction générale, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour que ça ruisselle. Quand on est bien clean avec soi-même, bah du coup, il faut le communiquer à l'extérieur, donc sans doute en apportant du contenu avec de l'inbound recruiting. Et puis, s'appuyer sur des cabinets de recrutement, évidemment, pour aller chercher aussi quand même la compétence à l'extérieur potentiellement.
La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Nicolas Guillaume, directeur des opérations chez LHH Recruitment Solutions. Merci d'avoir participé à ce micro, à cet épisode.
Merci.
Et merci également, Guillaume Vigneron, président directeur général de la Super Agence.
Merci beaucoup.
On en a appris beaucoup sur plein de choses, sur l'inbound recruiting, entre autres. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ne rien rater de ces échanges passionnants comme aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes de Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. À très très bientôt.